Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est donc l'heure du journal de Romane Auquet.
Je n'accepte pas qu'en France, pays des libertés où je me sens en sécurité, on me force à faire quelque chose que je ne veux pas. Sous couvert de santé publique, de bien commun, en fait, qu'on me force à sacrifier mon opinion et puis mon corps aussi. C'est mon corps, ça m'appartient.
19 000 personnes dans la rue cet après-midi pour dire non à la vaccination et au pass sanitaire élargi. Des mobilisations dans plusieurs villes de France, dont Paris. Un cortège marqué par des tensions entre policiers et manifestants. Reportage dès le début de ce journal. Un pass sanitaire dont l'application se précise. Un avant-projet de loi prévoit déjà des sanctions pour les professionnels récalcitrants. Les explications de Claudia Bertram. Vous vous préparez peut-être pour le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Plusieurs villes ont préféré annuler les festivités refroidie par le variant Delta et la mise en garde du chef de l'État. Il y a 5 ans, 86 personnes étaient tuées sur la promenade des Anglais. Nice commémore l'enfer de l'attentat du 14 juillet 2016. Big Bang climatique à Bruxelles, un pacte vert qui va changer nos vies dans les années à venir, avec notamment la fin des moteurs diesel et essence, l'éclairage de notre correspondante à Bruxelles. Du football et la star Lionel Messi prolongée au FC Barcelone. Oui, mais à condition que ses coéquipiers réduisent leur salaire, ambiance dans le vestiaire. Le Tour de France où le roi Pogacar s'est imposé au sommet du col du Portet aujourd'hui. Et la météo, avec cette vigilance orange, pluie, inondation pour 11 départements du nord-est de la France. Prudence au moins jusqu'à demain après-midi, nous dira Marlène Duret à la fin de ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il dénonce la dictature sanitaire. 19 000 personnes ont manifesté sur tout le territoire cet après-midi pour protester contre le pass sanitaire élargi, contre la perspective aussi d'un vaccin obligatoire pour tous. Des mobilisations à Montpellier, Caen, Toulon, Nantes ainsi qu'à Paris. Alexandra Sirgan était dans le cortège marqué par des tensions entre policiers et manifestants.
Les manifestants se sont donné rendez-vous place de Clichy avec pour objectif de rejoindre République. Mais à mi-chemin, sur le boulevard Magenta, un important cortège de CRS fait barrage au milieu de l'avenue à l'aide de gaz lacrymogène. Liberté, s'écrient les manifestants en retour. Parmi eux, Marie, 30 ans, masquée, qui martèle ne pourtant pas être anti-vaccin.
Le vaccin, aujourd'hui, qu'on nous propose, il est encore en phase expérimentale. Moi, je me suis fait vacciner tout au long de ma vie, j'ai pas de problème avec ça, mais aujourd'hui, je n'accepte pas qu'en France, pays des libertés où je me sens en sécurité, on me force à faire quelque chose que je ne veux pas. Sous couvert de santé publique, de bien commun, en fait, qu'on me force à sacrifier mon opinion et puis mon corps aussi. C'est mon corps, ça m'appartient.
Et Marie ne compte pas en rester là, tout comme sa cousine qui l'accompagne.
On est prête effectivement à ne pas lâcher. Et quand aujourd'hui, en fait, on nous fait passer pour des égoïstes, ça me fait doucement sourire parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, d'accord, nous, on est prêt à sacrifier nos vacances, on est prêt à sacrifier nos sorties, à ne pas aller au resto, on est prêt à sacrifier tout ça, en fait. Même pendant plusieurs années.
Toutes deux ont prévu de se rendre à la prochaine manifestation qui aura lieu ce samedi à Paris.
Le reportage d'Alexandra Sirgan pour Europe 1. Des mouvements de protestation qui se propagent aussi en Europe. Cet après-midi, 4000 personnes ont manifesté dans le centre d'Athènes, en Grèce, contre les restrictions imposées par leur gouvernement. En France, dès mercredi prochain, le QR code de votre passe sanitaire sera donc obligatoire pour aller au cinéma ou au théâtre. À partir du 1er août, il faudra aussi montrer patte blanche pour aller au restaurant ou dans un bar. Un passe sanitaire dont les contours se précisent grâce à l'avant-projet de loi du gouvernement. Claudia Bertram, vous avez pu consulter ce texte et des sanctions sont prévues pour les professionnels qui décideraient de ne pas contrôler ces documents.
Oui, car c'est bien aux professionnels, aux exploitants de ces établissements, bars, cafés, restaurants, cinéma, théâtre, d'assurer le contrôle du pass sanitaire. Et des sanctions sont donc prévues en cas de manquement jusqu'à 45 000 euros d'amende et un an de prison. Le projet de loi du gouvernement prévoit aussi des sanctions en cas de refus de la vaccination obligatoire. Les salariés qui y sont soumis, les personnels soignants, ceux qui sont au contact de la population la plus fragile et qui ne seraient pas vaccinés d'ici au 15 septembre, eh bien, ne pourront plus exercer leur activité. Ils pourront même être licenciés s'ils ne le sont toujours pas, s'ils ne sont toujours pas vaccinés à la mi-novembre.
Alors l'autre point crucial de ce projet de loi, Claudia, c'est aussi l'isolement obligatoire pour toutes les personnes testées positives.
Oui, jusqu'à présent, l'isolement n'était obligatoire que pour les personnes entrant sur le sol français et positives au Covid-19. Désormais, cela concernera toute personne testée positive qui devra donc s'isoler pendant 10 jours dans le lieu qu'elle aura déclaré lors du test. Cet isolement pourra être contrôlé par la police et la gendarmerie. À noter tout de même qu'une autorisation de sortie entre 10h et midi est prévue par le texte, ainsi que des adaptations pour la vie de famille ou les mineurs. Cet avant-projet de loi, qui est actuellement soumis au Conseil d'État, doit être présenté lundi prochain en Conseil des ministres avant d'être débattu au Parlement dans la foulée.
Les précisions de Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. Avec ou sans passe sanitaire, le variant Delta gâche la fête du 14 juillet. Près de 7000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures, un niveau inédit depuis le début du mois de juin. Beaucoup de communes ont donc renoncé au traditionnel feu d'artifice, refroidi par les mises en garde du chef de l'État. Jean-Jacques Héry, ces villes n'ont voulu prendre aucun risque face au virus.
C'est ça, des annulations en cascade dans toute la France. Première salve d'annulation hier soir, 13 juillet, et ça continue ce soir, 14 juillet. C'est le cas pour des grandes villes, Lorient, Caen, Nantes, par exemple. Mais aussi pour des villes moyennes, comme Honfleur ou Montluçon. Impossible de vous faire toute la liste, Romane, franchement, elle serait beaucoup trop longue. À chaque fois, c'est la même justification. Un feu d'artifice, c'est un vecteur de rassemblement. Les mairies estiment donc qu'il sera impossible de faire respecter la distanciation et les règles sanitaires, avec une foule qui sera dense et compacte. Alors le plus simple, c'est tout simplement d'annuler, décision qui est prise soit par les villes donc, ou parfois carrément par la préfecture. Pour beaucoup, ça sera de toute façon une fête nationale masquée. La préfecture du Nord a ainsi décidé d'une obligation temporaire du port du masque dans tout le département. Les autorités rappellent aussi que le pass sanitaire est obligatoire pour les bals populaires ou les bals des pompiers dans les établissements qui accueillent plus de 1000 personnes. Enfin, dernier exemple à Toulouse, on a bricolé pour ne pas annuler. On a coupé les feux en quatre, plus un seul gros feu d'artifice, mais quatre qui seront tirés en même temps. L'idée, en divisant les événements, c'est aussi de diviser la foule et donc d'éviter l'apparition d'un cluster.
Les précisions de Jean-Jacques Héry pour Europe 1. À Paris, le feu d'artifice aura bien lieu à 23h, dans un peu moins d'une heure, au pied de la Tour Eiffel et malgré la météo maussade. Un spectacle qui clôture les festivités dans la capitale, avec ce matin le retour des militaires et des spectateurs pour le défilé sur les Champs-Élysées. Des policiers municipaux de la ville de Nice ont aussi marché sur les pavés parisiens. Une première, 5 ans après l'attentat qui a tué 86 personnes sur la promenade des Anglais. Jean Castex a présidé un hommage cet après-midi à Nice. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Une cérémonie sobre, en présence de nombreuses familles recueillies dans l'intimité, à l'écart de la presse, ici dans les jardins de la Villa Masséna. On est sur la promenade des Anglais, à l'endroit même où il y a 5 ans, un camion conduit par un terroriste semait la mort. La douleur est encore très forte. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de son ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est entretenu à huis clos avec les familles. C'était en début d'après-midi, avant d'assister à l'hommage, un hommage en musique, avec plusieurs prises de parole pour se souvenir, témoigner et réclamer justice. Stéphane Herbs, co-préside l'association Promenade des Anges.
Nous attendons fermeté de la part d'une justice sur laquelle nous restons vigilants et à qui nous voulons rappeler que nous n'avons toujours pas accepté les libérations conditionnelles de certains suspects. Sur le volet juridique, nous attendons aussi les conclusions de l'enquête menée à Nice pour que la lumière soit faite sur les différentes défaillances ayant amené un si lourd bilan.
Il ne peut y avoir qu'une seule voix, celle de la plus grande fermeté, a répondu le Premier ministre Jean Castex.
Le 14 juillet 2016 à Nice, c'est la République qui a été visée. C'est la liberté d'aller et venir. Et au-delà, une certaine forme de civilisation. Visée, oui, ensanglantée, hélas, mais ni affaiblie, ni abattue.
La cérémonie s'est achevée avec la lecture des noms des 86 victimes et l'allumage de bougies. Les familles se sont ensuite recueillies devant le mémorial avant que soient lâchées dans le ciel 86 colombes. Nice, Frédéric Michel.
6 ans. Le 14 juillet aussi, et ses traditions avec la promotion de la Légion d'honneur. C'est la distinction la plus élevée en France, une récompense qui a distingué pour ce millésime 467 personnes, comme le sociologue Edgar Morin, Jean-Pierre Pernaut aussi, ou Laetitia Casta. Mais comme chaque année, certaines personnalités décorées ne font pas l'unanimité, Marion Dubreuil.
Oui, comme le préfet de police de Paris, Didier Lallemand devient commandeur. C'est le 3e grade de la Légion d'honneur. Il est arrivé à Paris en mars 2019. Rappelez-vous, c'était en pleine crise des Gilets jaunes et il s'est rapidement fait connaître par un changement de doctrine. Avec lui, les forces de l'ordre vont désormais au contact des manifestants. Il s'était illustré par des sorties pas toujours maîtrisées. Il avait notamment déclaré à une Gilet jaune « Nous ne sommes pas dans le même camp ». Autant dire que sa nomination sur proposition du ministre de l'Intérieur en a fait tiquer plus d'un, comme le journaliste David Dufresne, connu pour son décompte des violences policières, ou bien encore des figures de gauche comme Philippe Poutou ou des élus France Insoumise. Autre nomination contestée, là encore, c'est un serviteur de l'État, Claude Darcourt, ancien préfet de Loire-Atlantique et promu officier de la Légion d'honneur. Il était aux manettes le 21 juin 2019, le soir de la mort de Steve Maya Canisso à Nantes. Il est d'ailleurs convoqué par la justice cet été dans le cadre de l'information judiciaire sur la mort du jeune homme.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Roman Hockey.
Big Bang climatique à Bruxelles, un pacte vert qui va changer nos vies dans les années à venir. La Commission européenne a dévoilé aujourd'hui sa feuille de route, un plan de bataille pour baisser fortement nos émissions de CO2 d'ici 2030. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. 2030, on peut dire que c'est demain et donc ce sont beaucoup de secteurs de l'économie qui vont devoir évoluer.
Oui, ça peut paraître encore un peu abstrait, hein, mais ce qu'a présenté Bruxelles, c'est vraiment l'architecture du monde économique dans lequel nous vivrons demain. Des logements aux transports, en passant par l'énergie ou l'industrie, beaucoup de domaines seront touchés. Il va falloir réduire très fortement les émissions de carbone, beaucoup plus vite qu'actuellement. Ça passe par des efforts, des taxes, comme sur le kérosène des avions, par des innovations aussi. La voiture électrique supplantera les modèles à essence dès 2035. Les entreprises qui feront des efforts pour rejeter moins de CO2 seront protégés de la concurrence étrangère déloyale via une taxe carbone aux frontières. Bref, c'est un plan très dense dont certains aspects sont déjà contestés par peur de leurs répercussions sociales. C'est notamment le cas d'une taxe prévue sur les carburants et le fioul domestique. Elle réveille le spectre de la crise des gilets jaunes. Ce soir, Paris salue donc ce plan, mais se dit réservé sur certains aspects qui peuvent avoir des conséquences pour les ménages et les PME.
L'éclairage d'Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles pour Europe 1. Dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, où 72 personnes sont mortes lors d'une vague de pillages sans précédent. Des milliers d'habitants ont dévalisé hangars et magasins avec la peur de manquer d'essence et de nourriture. Des violences qui durent depuis 6 jours, depuis l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi dans plusieurs affaires de corruption. 22h11, la suite de votre journal avec le PSG qui s'offre le meilleur joueur de l'Euro 2020. Le club parisien a officialisé l'arrivée du gardien de but italien Gianluigi Donnarumma. Il a signé un contrat de 5 saisons avec le club de la capitale. Le gardien de 22 ans arrive tout droit du Milan AC où il était libre de tout contrat. Et puis peut-être la fin de l'un des feuilletons de l'été. L'Argentin Lionel Messi va re-signer au FC Barcelone. Un sacré budget pour le club catalan. Julien Froment, pour conserver la star de l'équipe, les dirigeants ont même demandé aux autres joueurs du vestiaire de faire quelques compromis sur leur salaire.
Et par compromis, il faut comprendre, baisse drastique des salaires des cadres du vestiaire. Vous vous en doutez, requête diversement appréciée, d'autant plus que Lionel Messi, qui lui a accepté de faire un geste, baisser son salaire par deux, eh bien, il touchera tout de même 70 millions d'euros par saison. Le club catalan a également lancé une grande campagne de déstockage. Plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Le français Samuel Umtiti ou encore l'ex-joueur de Lyon, Miralem Pjanic. Plus surprenant, Antoine Griezmann, champion du monde avec les Bleus en 2018, est arrivé en Catalogne. Il y a à peine 2 saisons, et lui aussi invité à partir, signe qu'il y a urgence. Avec la crise du Covid, la Ligue professionnelle espagnole a fixé un plafond salarial à ne pas dépasser. Le FC Barcelone est allègrement au-dessus, sans compter la prolongation de sa star Lionel Messi. Résultat, les contrats des autres nouvelles recrues, l'Argentin Agüero ou le Néerlandais Memphis Depay, n'ont toujours pas été validés par la Ligue. Il va donc falloir vendre vite et bien pour se conformer aux nouvelles règles, car le patron du foot espagnol, Javier Tebas, a été clair sur le sujet. Le FC Barcelone n'aura aucun passe-droit cette saison.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et tout de suite, on part sur la route du Tour de France.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
Et c'est le roi Pogacar qui remporte cette 17e étape, 178 km entre Muret et Saint-Lary-Soulan. Un parcours musclé dans les Pyrénées avec un col hors catégorie, le col de Portet. Côté français, le grimpeur breton David Gaudu a fini 4e de l'étape en haut du col, mais à plus d'une minute du trio de tête. Sans regret donc pour le coureur, bien conscient que le maillot jaune slovène est au-dessus du lot.
Les trois devant étaient forcément les plus forts. Je ne pouvais pas les accompagner quand ils ont attaqué. Je ne peux pas rentrer derrière tout seul. Donc forcément, il n'y a aucun regret. Les trois étaient au-dessus du lot aujourd'hui. La montre encore aujourd'hui, c'est peut-être le patron du Tour cette année. C'est lui qui attaque le premier, c'est lui qui regagne l'étape en jaune. Donc non, ça a l'air d'être le plus fort. Après, il reste l'étape de montagne. On n'est jamais à l'abri d'une journée sans, même quand on est maillot jaune et qu'on est au-dessus du Tour. Donc voilà, mais en tout cas, il a montré que c'était un sacré maillot jaune et qu'il n'avait pas peur de sortir les crocs.
Le breton David Gaudu au micro de Marguerite Lefebvre que l'on retrouve demain pour la suite du Tour. La 18e étape, la dernière dans les Pyrénées, avec un invité d'honneur. Emmanuel Macron rendra visite aux coureurs du peloton. On jette un coup d'œil à votre météo avec vous, Marlène Duret. Alors, dans l'Est de la France, 11 départements sont ce soir en vigilance orange, des Ardennes au Bas-Rhin jusqu'au Doubs. Prudence donc, Marlène.
Et oui, Roman, une alerte orange effective jusqu'à demain 16h, car la pluie tombera de plus belle ce jeudi dans les régions du quart nord-est et sur des sols déjà bien saturés. Alors attention au risque d'inondation et de crues. Alors ce jeudi, on va retrouver un ciel bien couvert et des pluies parfois soutenues dans les régions du Grand Est, en Bourgogne, Franche-Comté, jusqu'aux Alpes du Nord. Et on n'exclut pas quelques coups de tonnerre. L'amélioration va bien se faire par la façade océanique, mais tout doucement. Et l'après-midi s'annonce très ensoleillé sur les plages de l'Atlantique, bretonne jusqu'au Cotentin. Malheureusement, le ciel va rester chargé sur le piémont pyrénéen. Du côté des Alpes du Sud, des averses orageuses sont à craindre également, alors que le soleil dominera vers la Côte d'Azur. Mistral et Tramontane se mettront en place. Quant aux températures, elles vont remonter un peu. Prévoyez 17 à 26 degrés dans la plupart des régions, avec 25 dans la capitale et 27 à 30 degrés autour de la Grande Bleue.
Merci Marlène Duret. Et tout de suite, les unes de la presse à retrouver dans vos kiosques demain. Avec d'abord le journal Ouest France qui consacre sa une aux 12 propositions de l'Union européenne pour le climat. Isabelle Horry vous en parlait dans ce journal. Sur le sujet, les échos parlent d'une révolution européenne. Rappelons que Bruxelles souhaite mettre fin à la commercialisation des moteurs thermiques pour 2035. Un défi pour les constructeurs, prévoit le quotidien. L'édito du Figaro prévoit d'ailleurs une hausse des prix suite à ce plan européen. À la une du quotidien, le populaire du centre aussi, ce titre, les loisirs tombent à l'eau, bien sûr, par la météo. Marlène Duret nous rappelait cette vigilance orange dans 11 départements. Et enfin, le quotidien Libération qui consacre sa une à la disparition de l'artiste Christian Boltanski, cinéaste, sculpteur, photographe, ce touche-à-tout de 76 ans. Un plasticien à l'art généreux, inlassable explorateur de la mémoire, écrit le quotidien. Un portrait à retrouver demain dans Libération.